tu aurais pu parler d'amour. Après tout, le monde a parlé d'amour. Je ne sais pas s'il parle réellement d'amour, si avec un bouquet de roses, on règle tous les problèmes au monde. Mais écoutez, je vais vous parler d'amour, mais dans un sens que Jésus va le faire lui, au travers de la condamnation des faux chefs spirituels de l'époque. Et il va y avoir de la part du Seigneur Jésus-Christ une condamnation. On va dire, ce sont ce qu'on appelle des messages directs. Jésus ne tourne pas autour du pot. Et à la lecture de ces quelques versets que nous allons faire ce matin, vous allez voir assez rapidement que le Seigneur a parlé directement à ces personnes. Et j'avoue que parfois, il y a un besoin de dire les choses directes avec amour et compassion. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Donc on est Matthieu chapitre 23. Je ne vais pas lire le texte en entier, puisque je vais le lire au fur et à mesure des points que nous allons aborder. Donc, il y a là plusieurs versets. Donc, Matthieu chapitre 23, le premier verset que je lirai, c'est à partir du verset 13, et j'irai jusqu'à la fin du chapitre 23. Alors, quand on parle de Jésus dans ce monde, on aime bien Jésus. On aime bien présenter, Jésus comme un homme plein de douceur et plein d'amour. Et j'avoue franchement, quand on arrive dans ce genre de passage, je me dis, est-ce que le Seigneur avait autant de compassion et d'amour que ce qu'il a manifesté précédemment, donc dans l'évangile de Matthieu ou dans tous les évangiles, nous voyons que le Seigneur a manifesté, c'est vrai, de l'amour et de la douceur, de la compassion. Il a manifesté beaucoup d'amour aussi, mais en même temps, Jésus a été un homme pur et juste, et il a voulu dénoncer la manière de se présenter devant l'humanité, donc ses scribes et ses pharisiens, qui, comme je le disais la dernière fois, se prétendaient être des personnes, et dans le fond, elles ne l'étaient pas. Et il y a là un langage assez direct de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, et on voit que, quelque part, le Seigneur a montré du doigt, a touché du doigt leur façon de se présenter devant l'humanité, ces personnes qui prétendaient être ce que dans la réalité ils n'étaient pas. Alors, dans ce passage que nous allons regarder en détail, il y a 8 condamnations, 8 malheurs, si vous préférez, puisqu'à chaque fois, ça va commencer par malheur à vous, et puis il va expliquer les raisons pourquoi le Seigneur va dire cela. Et nous devons essayer de regarder que ces condamnations, elles sont ciblées, elles n'étaient pas dites à la légère, c'était pas des condamnations qui étaient quelque chose qui était réfléchi, elles étaient ciblées parce que ces gens-là se comportaient comme cela devant l'humanité qui les représentait de l'époque. Alors le mot hypocrite dans la Bible sert à l'origine pour décrire un acteur qui se cache derrière un masque. Voilà ce que le mot signifie dans la traduction grecque de l'origine. Donc le mot hypocrite, c'est quelqu'un qui se cache derrière un masque. On a aujourd'hui l'idée d'un comédien, une personne qui joue un rôle qui n'est pas forcément le sien. Et vous avez des personnages bien connus dans notre monde qui jouent des rôles qui ne sont pas forcément les siens, le leur en tout cas, et quand on leur pose la question à certaines de ces personnes, donc à certains comédiens, eh bien certains vont confier que ils vont vous dire, on s'est mis dans leur peau. C'est-à-dire que quand ils jouent un rôle, ces personnes-là, eh bien, ils vont vous dire clairement, certains vont perdre du poids, certains vont grossir, d'autres vont essayer de danser, apprendre à danser, d'autres vont faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, ils vont se mettre dans la peau pour manifester leur comédie, donc dans le sens que nous regardons parfois un film à la télévision. Jean Dujardin n'est pas quelqu'un de muet. C'est pas parce qu'il a joué un film muet qu'il est quelqu'un de muet dans la vie tous les jours. Juste une petite parenthèse. Je voudrais aussi vous rajouter, avant de démarrer les 8 condamnations, que tous les comédiens ne sont pas des hypocrites. D'accord ? C'est pas parce qu'on met un masque que forcément on joue de l'hypocrisie derrière ce masque. Alors regardons ensemble ces 8 condamnations. La première condamnation se trouve au verset 7. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Alors c'est une condamnation qui est lourde de conséquences, puisque les religieux de l'époque avaient pour objectif d'accompagner les gens dans leur quotidien. Ils avaient pour objectif de parler de la parole de parler de Dieu, de les apporter, je dirais, à Dieu, pour qu'eux-mêmes deviennent en réalité des religieux par la suite. Mais ce que Jésus va condamner là, c'est leur zèle religieux. C'est-à-dire que ils avaient un soi-disant zèle pour Dieu qu'ils essayaient de montrer à l'humanité leur zèle. Regardez-moi comment je loue Dieu. Regardez-moi comment je lis tous les jours la Torah. Donc ils avaient sûrement une manière d'agir. Alors j'ai pas vécu à l'époque de Jésus, mais on peut s'imaginer un pharisien ou un scribe devant sa porte, assis sur un fauteuil de l'époque, un hamac ou un matelas, je ne sais pas quoi, en train de lire la Torah, et il disait à toute l'humanité, regardez comment je lis la Torah, comment je prends du temps, et leur grand zèle pour Dieu, en réalité devenait du fanatisme. C'est-à-dire que leur façon de fonctionner, eh bien Dieu leur disait, en réalité vous êtes devenus des fanatiques, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, malgré votre grande connaissance de l'Ancien Testament, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu, mais en même temps vous empêchez les autres de rentrer dans le royaume de Dieu. Quelque part religieux, oui, de façade, mais ils empêchaient même les autres de rentrer dans le royaume de Dieu. Des conducteurs aveugles, le Seigneur les appelle des conducteurs aveugles, de mauvais pilotes. En réalité, ils ne périssent jamais seuls, les mauvais pilotes. Il y a quelque temps, dans l'actualité, en 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet avion qui s'est écrasé à Barcelonnette. Il y avait là un pilote, alors, Dieu merci, quand je prends l'avion, je prie le Seigneur pour qu'il n'y ait pas un mauvais pilote dans cet avion. Ou comme dans ce fameux film comique américain, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Là, apparemment, ce monsieur n'avait pas du tout l'intention de rentrer à la maison. Et malheureusement, son fanatisme, alors on va dire, il était dépressif, il était malade sûrement, mais son fanatisme, là, à cette heure-là, quand il était dans l'avion, eh bien malheureusement, il a tué 150 personnes avec lui. Il n'a pas regardé s'il y avait femmes, enfants, s'il y avait des personnes avec lui qui étaient handicapées. Non, non. Il voulait mourir. Et dans sa mort, il a emporté tout le monde. Mais soyons honnêtes. Tous les jours, aujourd'hui, le fanatisme tue. Sous prétexte de religiosité, aujourd'hui, le fanatisme tue, et au lieu de porter les gens à la religion, on empêche les gens de venir à Dieu. Au nom de Dieu, aujourd'hui, on fait n'importe quoi. Je me dis déjà de l'époque, le Seigneur dénonçait leur hypocrisie. Et je me dis parfois, il nous arrive, nous aussi, parfois de dire, mais Seigneur, si tu les as dénoncés déjà à l'époque, à plus forte raison, nous aussi, au XXIe siècle, nous sommes des personnes averties et nous devrions dénoncer les personnes fanatiques. Les personnes qui prétendent être des bons conseillers ou des personnes qui ont une certaine connaissance, mais dans la réalité, ils empêchent les gens de venir à Dieu. Le zèle, oui, mais contrôlé à la gloire de Dieu. Un zèle canalisé par Dieu. Ça, c'est un zèle de sagesse. Ça, c'est un zèle qui glorifie le Seigneur. Quand il est canalisé, quand Dieu dit, d'accord, tu dis ça, mais en même temps, tu le pratiques dans ton quotidien. Ce qui n'était pas le cas pour les pharisiens de l'époque. Ils avaient du zèle, du fanatisme, mais en réalité, ils n'étaient pas canalisés pour Dieu. Deuxième condamnation, verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Alors, j'ai un peu analysé ce deuxième condamnation de la part du Seigneur, ce deuxième malheur. Quelque part, quand un pharisien ou un scribe entendait qu'il y avait quelqu'un qui mourait, il allait voir cette personne. Et au lieu d'être affligé avec elle, eh bien, il essayait de l'extorquer, c'est-à-dire de prendre tout ce qu'il y avait à prendre dans la maison. T'es devenu veuve, mais quelque part, n'oublie pas le temple, n'oublie pas le trésor du temple. Et ils essayaient par cela de démunir ces veuves. Elles avaient pratiquement tout perdu en perdant leur mari, mais malgré ça, sous l'apparence de la belle religion, eh bien, ils étaient en train encore de démunir cette personne. Donc, c'était une religion de cupidité. Sous l'apparence de la religion, eh bien, je vais essayer d'extorquer le maximum d'argent vis-à-vis de cette personne. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans notre société quand on parle de certaines sectes qui vous font tout retirer, n'est-ce pas? Qui vont essayer de prendre le maximum, hein? Et si vous n'avez pas donné le maximum, alors il vaut mieux partir de la secte parce que quelque part vous n'avez plus rien à apporter. Eh bien, le Seigneur condamne ses profiteurs. Et dans le texte, il est dit, hein, il rajoutait en plus une belle prière. Il venait en plus, sûrement avec une liste de prières tout à fait adéquate pour la situation, et ils prétendaient par leur belle prière, ouais, à Dieu soit la gloire. Et en même temps, ils partaient les poches pleines, parce qu'ils venaient carrément de profiter de la situation. Troisième condamnation, c'est l'orgueil montré du doigt. Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez les mers et les terres pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce genre de choses? Eh bien, ces gens-là étaient prêts à faire des kilomètres, ils étaient prêts à faire le tour de la terre pour faire un prosélyte. Un prosélyte, c'était quelqu'un qui était intéressé à accepter la religion de l'époque. Donc, il était intéressé, il vivait dans son monde, et quand il y a un petit intérêt, alors hop de suite, on va en faire donc un prosélyte. Donc quelqu'un qui va essayer de suivre l'enseignement qui leur est donné. Mais là, le Seigneur va montrer du doigt, c'est-à-dire qu'il va condamner. Vos kilomètres ne servent strictement à rien. Vous en faites quelque part un fils de la géhenne ou un fils du diable, quelque part, malgré le fait que vous faites tant de kilomètres, de toute façon, il n'entrera pas dans le ciel, malgré tous les kilomètres que vous êtes en train de faire. Il y a certaines personnes qui vont frapper 700 portes dans ce monde pour acquérir le salut, pour gagner une seule personne. Il y en a qui vont taper 700 portes dans le but de gagner une seule personne. J'ai lu récemment ceci, le plus converti devient parfois le plus perverti. C'est-à-dire que bien souvent, on essaye de convertir des personnes et il va devenir encore plus perverti que la personne qui a été convertie de sa part. Vous savez, c'est une tragédie, bien souvent, d'entendre ce genre de paroles. On ira tous au paradis. Moi, quand j'entends ça, heureusement que je suis assis, ou heureusement que je suis debout bien sur mes deux pieds, parce que, en toute honnêteté, on n'ira pas tous au paradis. La Bible est claire. La Bible dit, si vous avez accepté Jésus, vous allez au paradis. Si vous n'acceptiez pas Jésus, c'est l'enfer. C'est direct, n'est-ce pas ce que je viens de dire? Mais c'est le message d'amour que Dieu a porté au travers de l'humanité en venant ici-bas, sur cette terre, il y a 2000 ans. C'est une pensée d'humanité, mais la Bible dit que large est la porte et étroite est le chemin qui mène à la vie. Et je pense que nous avons besoin de nous le rappeler que on n'ira pas tous au paradis. L'orgueil peut nous éloigner complètement de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui pensent avoir une certaine statue ou une certaine façon de vivre pour acquérir le ciel. On est sauvé par grâce, hein. Les bonnes œuvres que vous pouvez faire ici-bas sur cette terre ne vaudront rien quand vous vous présenterez devant le Seigneur. Hein. Si elles sont faites à la lumière de la parole, oui. Mais si vous prétendez devant le Seigneur dire, écoute, voilà, je me suis occupé de tant d'associations, j'ai donné tant d'argent pour telle situation, ou j'ai fait ceci, ou j'ai fait cela, le ciel ne s'acquiert pas par les bonnes œuvres, hein. C'est par grâce. Si on est sauvé, c'est par grâce. Uniquement par grâce. C'est un cadeau de Dieu. L'humanité le refuse, mais c'est un cadeau que Dieu donne à l'humanité. Moi, quand on m'offre un cadeau, je prends. Offrez-moi une tarte aux pommes, je prends.
Offrez-moi un millefeuille, je prends. Alors. Offrez-moi de la betterave, alors là. Je vais un peu discuter sur la betterave. C'est le seul aliment que je n'aime pas parce que j'aime pas son goût terreux. Et pourtant, j'ai fait de la restauration. On m'a appris à manger de tout, et surtout à la maison, on m'a appris à manger de tout. Mais la betterave, alors là, si vous m'invitez, que vous me mettez de la betterave dans mon assiette, je vais la partager avec toutes les personnes qui sont autour de moi. Je vous préviens, je ferme la parenthèse. Quatrième condamnation, leur raisonnement malhonnête. Regardez comment ils vont raisonner. Verset 16 à 22. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est le plus fort, l'or ou le temple qui le sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous, encore jure par l'autel, il n'en est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel? Et sanctifié de l'offrande. Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel, et par tout ce qui est au-dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple, et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui est assis. C'est un peu compliqué, faut bien l'avouer. Mais leur intention était tellement malhonnête que, quelque part, leur raisonnement était tellement devenu un système raisonné dans leur esprit. C'est-à-dire que si on accorde une plus attention sur le matériel que le spirituel, je résume, hein, d'accord ? Les pharisiens accordaient plus d'attention sur le matériel que sur le spirituel. Ils se souciaient davantage de recevoir que de donner. C'est pour ça que je vous dis, et je voudrais le répéter, vous ne pouvez pas dire devant le ciel, je n'ai pas été averti par Nicolas, si une église met l'accent sur les sous tous les dimanches matin, et qui vous mettent, ouais, vous n'avez pas assez donné, vous n'avez pas... Fuyez ! C'est vrai qu'on vit par la foi. C'est vrai qu'on a besoin d'argent pour payer les factures. Mais si constamment on vient me casser les pieds pour donner ma dîme, à un moment donné, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment à la gloire de Dieu ? Je pense que nous devons rappeler certaines choses. Et il faut rappeler régulièrement certaines choses, parce que nous sommes tellement des personnes oublieuses qu'on a besoin parfois de nous rappeler que les choses élémentaires sont parfois nécessaires à faire. Mais il mettait l'accent plus sur le matériel que sur le spirituel. Dans cette église, il y a des micros. Quand je suis arrivé personnellement, il n'y en avait pas. Donc je ne pouvais pas m'approcher auprès d'un micro, il n'y en avait pas. Donc je ne pouvais pas. Maintenant on a deux superbes, splendides micros avec quatre pieds. Enfin, on a toute une série de matériel aujourd'hui. Franchement, en toute honnêteté, pour moi ça c'est secondaire. Je n'ai pas besoin de micro pour parler. Jésus n'avait pas besoin de micro pour parler. Il se servait des lacs avec des montagnes pour exprimer, pour parler à la foule, et croyez-moi, il parlait très très bien. Par contre, c'est une façon de fonctionner, n'est-ce pas? Parfois, on met plus l'accent sur le matériel que sur le spirituel. Oh, je suis pas contre ces micros, je vous rassure. Je les aime beaucoup depuis qu'ils sont là. Mais pour moi, ça c'est secondaire. La chair, c'est secondaire. Ça, c'est secondaire. Le vidéoprojecteur, c'est secondaire. Mais quand on n'en a plus, on ne chante plus. Hein? Quand ça ne marche plus, on ne chante plus. Hein? Des fois, je me dis heureusement qu'il y a quelques cantiques au fond là-bas, à toi la gloire, parce que le jour qui va tomber en panne, celui-là, ben, au moins on aura les cantiques là-bas au fond, on pourra chanter quelques cantiques. Voyez-vous, c'est ce que les pharisiens faisaient, les scribes. Ils mettaient plus l'accent sur le matériel que sur le spirituel. Et parfois, on fait exactement la même chose dans notre monde. On met plus l'accent sur le matériel que sur le spirituel. C'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui m'a dit récemment, une église s'est divisée à cause des poignées de porte. Il est là, le frère. Hein? Vous pouvez aller le voir, Richard Visser. J'espère qu'on ne se divisera jamais demain pour des poignées de porte. Hein? Parce que je pense qu'il y aura vraiment un problème dans le cœur. Hein. Franchement, hein, j'espère qu'on ne se divisera jamais pour ça. J'espère, en tout cas. Je vous le dis, là, c'est enregistré maintenant. Cinquième condamnation, le rejet de la miséricorde. Verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme et la mente de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. C'est direct. On titille. Si vous avez déjà rencontré un juif, le juif titille. Si vous rentrez dans son frigo, au juif, le lait, c'est pas en même temps que la viande. La viande n'est pas en même temps que le fromage. On ne met pas ensemble le légume. Le légume doit être dans un autre endroit. On titille. C'est exactement ce que les pharisiens et les scribes faisaient à l'époque. Il titillait. J'aime bien cette expression. Il titillait. Ah, la dîme de la nette ou le cumin, il fallait la payer. Mais on oubliait l'amour fraternel. Ah, ça, pour donner la dîme, parfois on est les premiers. On est des sportifs parfois pour donner la dîme au Seigneur. Mais on a oublié de téléphoner à la sœur ou au frère ou à la personne qui passe par un moment difficile. On veut parfois se donner une bonne conscience. Et c'est ce que les scribes pharisiens faisaient à l'époque. Ils se donnaient bonne conscience, mais ils oubliaient l'essentiel. Ils allaient dans les détails, mais ils oubliaient ce qui faisait la force, et ce qui doit faire la force. Quand le Seigneur nous dit « aimez-vous les uns les autres », ça fait la force de nos églises aujourd'hui, l'amour fraternel. Ça fait la force de nos églises, la communion fraternelle, le partage, les repas fraternels, ça fait la force de nos églises. Il y a beaucoup d'églises qui ne font plus ce genre de choses. J'ai assisté à une église aux États-Unis, enfin je ne veux pas montrer du doigt uniquement que les Américains, mais c'était un vécu. Donc il y a des choses que j'ai vécues à un moment donné, c'était tout le monde au restaurant. Voilà, le pasteur a dit tout le monde on va au restaurant, tout le monde au restaurant après le culte, on va vivre la communion fraternelle au restaurant. Alors j'ai beaucoup apprécié cela, je voudrais quand même vous rassurer. Moi, quand quelqu'un me paye au restaurant, j'y vais. Que ce soit un pasteur ou pas un pasteur, j'y vais. Ou une église ou pas une église. Pardon. Et on vit des temps forts aussi. En participant à la communion fraternelle, on apprend à se connaître. On apprend à manger différent. Vous allez apprendre à manger différent. Mes repas ne sont pas forcément vos repas. Dans la communion fraternelle, j'ai appris à beaucoup manger et apprécier le colombo. Avant d'être marié, je ne connaissais pas colombo. Je n'avais jamais mangé de la vie colombo. Depuis que je suis pasteur à Mamol-sur-Seine, j'en mange toutes les communions fraternelles qu'on puisse en avoir colombo. C'est très très bon. J'apprécie énormément. Je ne savais pas qu'il y avait des variantes qu'on pouvait mettre poulet, porc, enfin qu'on pouvait mettre toutes sortes de viandes dans un colombo. Superbe, hein? Grâce à la communion fraternelle, j'ai appris à manger des choses nouvelles. Mais c'est important, ce genre de choses, à mettre en pratique dans notre quotidien. Ne pas oublier l'essentiel. Et je voudrais quand même vous rappeler, juste dans le texte, le Seigneur dit clairement, hein, vous avez mis de côté la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, sans négliger le reste. N'oubliez pas l'essentiel, le reste. Il faut payer aussi la dîme, et pas forcément du cumin et de la nette, je ne sais pas trop quoi. Il faut être aussi fidèle. Quand on s'engage avec le Seigneur, on est engagé. On n'oublie pas le Seigneur. On marque sa fidélité, même si parfois ça doit nous coûter. On marque la fidélité. On a fait une promesse. Si vous avez promis à votre enfant un bonbon, j'étais enfant, j'ai 56 ans maintenant, mais moi quand mon père et ma mère me promettaient du bonbon, c'était rare hein, quand ils le faisaient, mais quand ils me promettaient un bonbon, j'étais, vous connaissez cette expression, j'étais à ses basques, j'étais à ses pieds. Tant qu'ils ne m'avaient pas donné bonbon, moi, je ne partais pas de ses pieds. Il fallait que je reçoive bonbon. Tu m'as promis bonbon, je veux bonbon. Et combien d'enfants sont comme ça aujourd'hui? Si vous leur faites une promesse, ils ne vous lâchent plus. Hein. Ah, ils savent ce que c'est. J'ai vu une fois une dame tirer son enfant dans le supermarché avec un caddie. La dame était en train de pousser son caddie. L'enfant était accroché au caddie. Et il criait « Je veux bonbon !» Et la femme continuait tranquillement avec son caddie dans le magasin. Vous pouvez imaginer la situation, l'enfant qui tenait le caddie, la dame qui avançait et qui criait « Je veux bonbon !» Et la femme continuait à pousser le caddie, donc l'enfant était là. Et il traînait par terre, tant qu'il n'avait pas bonbon, il continuait à tenir et à crier. Sixième malheur, un cœur souillé. Versets 25 et verset 26. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. On nettoie pour montrer sa piété. On nettoie. Religion de façade. On fait de la moralité parfois. Religion de façade. On nettoie. Mais on oublie l'essentiel, la foi, la repentance. On veut paraître, on veut polir, on veut montrer aux personnes qu'on est des personnes religieuses. J'ai aucun voisin qui me dit à la maison, enfin à côté de la maison, « Oh, Nicolas, tu as mis la plus belle cravate. Ben, » je peux quand même vous montrer, j'ai mis une belle cravate que ma femme m'a offert. Mais il n'y a personne qui m'a dit ce matin, « Tu vas au culte, Nicolas. Tu as mis la cravate. D'habitude, dans la semaine, je ne te vois pas avec la cravate. Donc dimanche, tu es bien habillé, tu vas au culte. » C'est que de la para. Imaginez un instant, ce matin, je ne serais pas venu avec une cravate, j'aurais été défroqué, j'aurais eu un pantalon tout déchiré, quoique c'est la mode aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, des jeunes qui ont des pantalons déchirés pour eux, ils disent que c'est le plus beau pantalon qu'ils ont, du moment que c'est une marque qui est derrière leur fesse. Alors là, c'est le plus beau pantalon du monde. Hein. Mais imaginez que votre pasteur vienne demain comme cela, avec un jean tout délavé et tout. Des... Vous direz, bon, Nicolas, je peux te donner peut-être 80 euros, on va t'acheter un jean, ou 40 euros, on va t'acheter un jean. Hein. Je pense que l'habit ne fait pas le moine, j'espère. Hein. Hein. J'espère que vous ne vous êtes pas arrêté sur l'idée de la façade que je donne parfois le dimanche matin. Hein. L'habit ne fait pas le moine. Hein. Alors, on aime bien ce genre d'expression, mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on prétend être ou montre être devant l'humanité. Je ne porte pas la cravate durant la semaine, hein. Que cas exceptionnel. Si je vais voir un maire ou si je vais faire une visite, alors là, je vais essayer de m'habiller comme il faut, mais je ne porte pas la cravate. J'avais un prof qui est auprès du Seigneur maintenant, qui me disait souvent que l'habit a aussi son importance. Et il voulait qu'aller à l'institut, on soit avec une cravate, qu'on soit bien habillé, tout ça. Ça a bien changé depuis, d'après ce que je sais, ça a bien changé depuis. Mais c'était pour lui important. Tu viens à l'école, c'est important d'être bien habillé, parce que tu vas entendre parler de la parole de Dieu. C'est important quand tu vas recevoir d'être bien habillé. Ça a eu son importance. Ça m'a aidé de se devoir dire, ben voilà, quand je serai dans le ministère, maintenant tous les dimanches, il faut que je mette la cravate. De toute façon, si je ne mets pas la cravate, j'ai une épouse qui s'appelle Gabrielle qui m'a dit souvent, Nicolas, tu as oublié ta cravate. Et quand je ne l'avais pas la cravate, il faut voir le... Ben, pardon. Je vais me calmer. Septième malheur, le désir de paraître. À partir du verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Souvent, je me dis heureusement que le dimanche matin, on ne voit pas toujours ce qu'il y a dans ma cervelle. Heureusement. Parce qu'imaginez un petit peu qu'on ait un clapet là au-dessus de la tête, et que quand vous ayez une pensée mauvaise, paf, le clapet s'ouvre, et qu'au plafond, on voit ce qui est noté de la personne que vous voyez en face. Je te rassure, je ne pense rien sur les choses. Mais imaginez un peu que vous ayez un clapet là, paf, qui s'ouvre, et qui vous montre clairement là au-dessus de la tête ce que vous pensez de la personne. Il y a des fois, je suis persuadé qu'on mettrait un verrou hein, sur notre cervelle pour pas que cette partie-là s'ouvre au-dessus de la tête. C'est exactement ça, ce que faisaient ces gens-là. Ils étaient des tombeaux blanchis. Ils blanchissaient les tombeaux pour juste paraître devant l'humanité. Alors, lui, il était un bon religieux. Je vais mettre une bonne épitaphe sur son cercueil, ou sur son tombe, parce qu'il était un bon religieux. Et Jésus leur dit qu'ils étaient des hypocrites, hein, des personnes pécheresses, parce qu'ils étaient remplis d'iniquité. À mon avis, ils ne devaient pas passer souvent le temps de se dire, oh, Seigneur, là, je dois te demander pardon. Je dois confesser mon péché. Le dernier malheur, verset 29, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et vous dites, et nous avions vécu du temps de nos pères, vous ne vous serez pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes des fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échangerez-vous au châtiment de la gyène. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns, vous battez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécutez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu pour sur la terre, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, qui vous avait tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Alors c'était dur, n'est-ce pas, les paroles de la part de notre Seigneur, mais quelque part, ces personnes devaient être dénoncées. Ils fabriquaient de beaux tombeaux, et en réalité, les personnes à qui ils fabriquaient les tombeaux, ils les avaient tués. Alors, c'est sûr qu'on peut prétendre, après, c'est comme imaginer un petit peu, je fais juste un petit parallèle, le fils et la fille de Johnny, papa, je t'aime, mais ne m'oublie pas dans l'héritage. Papa, je t'aime, imaginez que Johnny serait encore vivant aujourd'hui. Il dit, papa, je t'aime, vous cassez les pieds à ma femme, hein. Vous embêtez mes enfants que j'ai adoptés, hein. Papa, je t'aime, sûrement Johnny vous dirait, laissez-nous tranquille. Hein. Et les scribes et les pharisiens avaient cette même attitude. Ils faisaient de beaux tombeaux sur des personnes qu'ils avaient eux-mêmes tuées. C'est pas hypocrite. Ah, il était bon ce roi. Il était bon ce pasteur. On va lui mettre une statue. Si vous allez aujourd'hui en Israël, vous avez la statue d'Élie sur le mont. Pas du tout apprécié ce monsieur à son époque. Hein. Il condamnait. Hein. Et Jésus leur montre, mais regardez, je le sauveur. Vous avez le sauveur devant vous, vous allez me crucifier. Voilà ce que Jésus est en train de leur dire. Hein. Le Seigneur vous a envoyé le sauveur, et dans quelques jours, je vais être crucifié. Quelque part, ils n'avaient pas du tout du discernement, hein, pour bien avouer. Ils étaient vraiment des hypocrites, n'est-ce pas? Je voudrais terminer, alors je n'ai pas terminé sur le fait du jugement de Jérusalem, hein, la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem va périr, l'Empire romain, Titus, va la détruire à un moment donné, même le temple, un petit peu plus tard. Parce que je voudrais terminer avec la conclusion de ce matin. Est-ce que vous êtes un frère ou une sœur hypocrite? Alors je suis persuadé. Je vais sortir un peu de la derrière. Je suis persuadé que vous allez me dire, mais non, je suis pas hypocrite, moi. Je suis parfait. J'ai le sang précieux de Jésus. Je suis plus que parfait. Soyons honnêtes devant le Seigneur ce matin. Est-ce qu'on a une religion de façade? Ou est-ce qu'on a vraiment une vraie religion comme la parole de Dieu l'enseigne? Pas comme les livres l'enseignent, hein, comme la parole de Dieu l'enseigne. J'ai dans ma bibliothèque des perles. Celui-là, je ne vous le donnerai jamais. Si vous voulez vous l'acheter, vous pouvez le trouver à la maison de la Bible. Je ne vous donnerai jamais ce livre parce que pour moi, c'est une perle. C'est écrit par Jerry Bridge. Alors peut-être certains le connaissent. Il est vendu à la maison de la Bible. Il y a quelque temps, je suis tombé sur cette perle. Alors il a écrit plusieurs livres pour ceux qui le connaissent. Il a écrit l'Évangile pour la semaine, la grâce de Dieu. Il a même écrit un livre qui m'a beaucoup marqué à l'Institut, Vers une vie sainte, pour ceux qui le connaissent un petit peu. Eh bien, récemment, il a sorti un livre, pas si grave, Ces attitudes que nous tolérons dans notre quotidien. Alors, je ne vais pas vous lire le livre, je vous rassure. J'espère peut-être un jour prêcher sur ce livre, parce que je le trouve
très intéressant. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Et à la fin, il va résumer un petit peu tout le livre. Alors, je voudrais essayer de prendre... allez, accordez-moi encore quelques minutes pour la conclusion. Est-ce que notre piété est à la gloire de Dieu? Est-ce que votre vie, elle est à l'image de celle que vous présentez dans le réel? Entre vous et moi. Est-ce que votre vie est à l'image de celle que vous présentez dans le réel, dans le spirituel que vous présentez dans le réel? Pas toujours, hein? Il faut l'avouer, il faut le confesser. Pas toujours. Parfois, il y a l'inquiétude, la frustration, le mécontentement, l'ingratitude, l'orgueil, sa propre justice, l'orgueil de la théologie, l'orgueil lié au succès et aux choses accomplies, l'orgueil de l'esprit indépendant, l'égoïsme, nos intérêts, notre temps, notre argent, le manque de considération de l'autre, le manque de maîtrise de soi avec la nourriture, la boisson, notre tempérament, notre argent, nos loisirs, nos habillements, notre habitude, l'impatience, l'irritabilité, la colère contre Dieu parfois. Parce que soyons honnêtes, hein, parfois on lève le poing contre Dieu, hein, en silence, mais on le fait parfois. Quand Dieu ne répond pas à nos attentes, quand Dieu ne répond pas à nos quatre désirs, quand Dieu ne fait pas comme nous on a prétendu être à un moment donné, on lève le poing contre Dieu. On lève même parfois le poing contre des frères et des sœurs. Parce que l'Église ne s'est pas comportée comme moi je voudrais qu'elle se comporte. L'Église n'a pas fait comme moi je le désire. L'Église n'a pas fait comme moi je prétends être par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. Les mauvais fruits de la colère, le ressentiment, la rancune, l'inimitié et l'hostilité, la haine, les querelles. Vous savez, je trouve que parfois, la haine nous éloigne complètement de Dieu. Vous savez, quand un frère ou une sœur ne veut pas pardonner à un autre frère ou une autre sœur, ça nous éloigne complètement de Dieu. Le jugement face aux différentes convictions, le jugement face aux différentes positions doctrinales, l'esprit de jugement, l'envie, la jalousie, l'esprit de compétition, le besoin de dominer, l'envie, la jalousie, toutes ces choses, mais non, il n'y a pas ça chez nous. Dans ma vie, je ne suis pas jaloux, je n'ai pas l'esprit de compétition, mais non, ça n'existe pas chez nous. Soyons honnêtes. Et si on demandait que le Seigneur ouvre notre cervelle ce matin, juste pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. La médisance, vous voyez là, la langue, elle doit être apprise à être maîtrisée. Hein. La médisance, la calomnie, le mensonge, les paroles méchantes, et blanc. Ça, je devais te l'envoyer. Hein.
Je l'avais depuis quelques instants dans mon esprit. Ça ne pouvait plus rester dans mon esprit. Et blam ! Comme ça, au moins, ce soir, je vais dormir mieux que toi. La mondanité, avec l'argent, l'immoralité, l'idolâtrie. Je pourrais continuer, frères et sœurs. Je pourrais continuer. Alors, c'est un livre très passionnant. Mais soyons honnêtes. Combien de fois dans notre vie, nous ne sommes pas mieux que les scribes et les pharisiens de l'époque. Soyons honnêtes. Devant le Seigneur ce matin, on n'est pas mieux parfois que les scribes et les pharisiens de l'époque de Jésus-Christ. Si on est honnête devant le Seigneur, on devrait, au lieu d'assister à la communion fraternelle cet après-midi, on devrait tous rentrer à la maison, se repentir et dire, voilà, la semaine prochaine, je reviens en nouveauté de vie à l'église, je me pas converti, mais je me reconsacre au Seigneur. Mais, frères et sœurs, aujourd'hui, ça devient nécessaire de se reconsacrer au Seigneur. On laisse trop de choses dans notre esprit qui nous éloignent petit à petit de Dieu. Parce que trop de choses, nous les tolérons dans notre vie et on s'éloigne malheureusement petit à petit de Dieu. Que nous puissions vraiment réfléchir à ce genre de chapitre que nous trouvons parfois dans la Bible. Oui, j'avais envie de parler de l'amour, mais Jésus a condamné avec amour. Et parfois, nous avons besoin de nous le rappeler dans notre quotidien. On a besoin parfois que le Seigneur vienne nous tirer un petit peu l'oreille. Juste pour dire, hé, là tu es allé trop loin. Tu as toléré dans ta vie des choses qui ne me glorifient pas. Tu as permis des choses dans ta vie que je n'accepterai pas quand tu te présenteras devant le Seigneur. Alors que nous puissions pas lire ce livre, si ça vous fait plaisir de le lire, je le laisse là, vous pouvez prendre le titre. Mais que nous puissions, durant l'année 2020, mettre ce livre qui est de plus éloigné de nos églises aujourd'hui. Il y a de moins en moins d'églises aujourd'hui, des gens qui se disent chrétiens et qui n'emploient plus la Bible aujourd'hui. Je me dis demain, frères et sœurs, si vous allez dans une église et que votre pasteur ou le diacre ou qui que ce soit ne sort plus la Bible, fuyez. Fuyez l'église. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a parfois des gens qui se comportent sous le prétexte du nom de Dieu d'une manière qui est insupportable. Dieu, si Jésus, s'il les a condamnés, c'est qu'ils avaient leur cœur sale. Et parfois, il faut bien l'avouer, notre cœur est sale. Et nous avons besoin de reparler, de se dire, mais là, il faut que je confesse ce péché assez rapidement devant le Seigneur. Alors que ces quelques versets lus ce matin ne soient pas dans un esprit de culpabilité, loin de moi la pensée de cela ce matin, mais juste un esprit de réflexion. Si demain vous relisez Matthieu chapitre 23 et que vous re-regardez dans le détail ces condamnations de la part de Jésus, rappelez-vous ce que je viens de vous dire. De peut-être se rappeler que parfois, lire la Bible, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais si le Seigneur nous montre quelque chose, il faut changer notre attitude que nous tolérons, malheureusement, bien trop souvent dans notre vie. Amen. Amen. Amen.